Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on revient au Mastic. Il est 15h06, on est sur RMC. Vous le savez qu'on est là tous les jours de 15h à 18h dans le Super Moscato Show. Vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie. On remercie Sarah Piposki qui est avec nous. Comment elle va?
Eh bien, écoute, je me porte à merveille. Je suis ravie de te voir aujourd'hui, Vincent.
Mais merci, moi aussi, je suis content. Écoute, je te souhaite une bonne année.
Bonne année aussi.
Écoute-moi, j'ai vu que tu voulais défendre le truc de Melbourne, que tu disais que c'était le plus beau tournoi.
Ouais, absolument.
Donc, tu vas attaquer cette émission avec une énorme couillonnade.
Je vais vous donner envie énorme de prendre l'avion.
Au-dessus de Wimbledon, au-dessus de Roland Garros.
Absolument.
Ouais, non, mais bien sûr.
Je vais vous donner envie de prendre l'avion et d'aller voir là-bas.
Elle est doux. Elle est du long. Hein. Ça picole là-bas. Elle ne va pas. Elle est souvent.
Mais ça picole aussi pas mal à l'Open d'Australie. C'est pour ça que ça te plaît. Non, ça va te plaire.
The Flower from Cornwall.
Je vais y aller avec Sarah.
Tu vois tous les deux.
Ouais.
Mais nous, normalement, si ça se passe bien, on va en Australie en 2027.
Ah, moi, je suis dans l'avion déjà.
Ouais. Ah, oui,
mais ça. Donc, en fait, vous y êtes, mais restez-y en fin d'année et faites-vous l'Open d'Australie en janvier 2028.
Oui, on va pas non plus rester avec les kangourous là-bas.
Faites tes titres de l'équipe de France.
L'Australie, c'est très bien quand tu restes à Sydney. Hein. C'est comme en France quand tu restes à Paris, autrement quand tu vas à la campagne
à
là-bas. À Cairns, ou je sais pas trop où, là, tu pleures.
Tu pleures.
Vas-y. Adrien,
comment ça va les amis?
Mais bien,
très bien, ça fait plaisir de te voir.
Ah ben moi aussi ça me fait plaisir.
Question moyenne, il y a un grand match de Ligue des Champions ce soir. Eric Dimeco répondra à cette question à 16h.
Elle est très moyenne.
Quel est le score le plus probable ce soir pour ce grand match de Ligue des Champions au stade Vélodrome devant 220 000 personnes?
Oui.
Marseille s'impose 3-0.
D'accord.
Ou Liverpool s'impose 3-0. Quel est le plus probable?
Ah oui, puis tu l'exploit, 3-0, quoi.
L'exploit, ça s'enchaîne bien. 1, 2, 3, peut-être à la dernière minute, un Vélodrome en folie. Ou alors le coup d'arrêt, le trou d'air. Et Liverpool retrouve son statut de Liverpool. Ah là, elle est dure celle-là.
Ils sont combien au classement Liverpool?
Liverpool, ils sont pas au mieux, hein, je crois.
Non, alors, en Ligue des Champions, ils sont mieux qu'en championnat.
En championnat, ils sont pas terribles.
Je pense que la furia marseillaise, ils peuvent prendre 3-0.
Salah est de retour aujourd'hui à Liverpool. Hein.
Mais donc 3-0 pour Marseille.
Salah est pas très bon. Voilà.
Oui, il est pas très Liverpool, bon, ils ont 3 points de plus que l'OM. Ouais.
D'accord.
Oui, allons-y, l'OM 3-0.
Ouais. L'OM 3-0, le plus probable. Vincent aussi
3-0 pour l'OM.
Le plus probable, plutôt Liverpool quand même.
Plutôt Liverpool pour Pierre Dorian. La France du Moscato Show est en train de trancher sur Twitter.
Ça joue la qualif ce match-là?
Non,
ils vont dire
pas directement.
Vous répondez à 64% pour le moment, 3-0 pour Liverpool.
Oui, mais toujours mieux ailleurs, bien entendu. Il n'y a pas un mec qui a vu jouer Liverpool, il dit 3-0 pour Liverpool. Alors que les mecs qui voyaient jouer Marseille.
Peut-être que les mecs ont vu jouer Liverpool.
Oui, très peu. Vous avez 62%, il y en a très peu.
Il y a l'envie de voir Marseille s'imposer 3-0.
Ça bricole. Moi, j'ai regardé Liverpool, j'ai vu 2-3 matchs, ça bricole.
Toi, t'as envie de voir l'OM s'imposer 3-0, Pierrot?
Oui, moi, j'ai envie.
Moi, j'ai envie de voir l'OM. Non, c'est la réponse quand même. Liverpool, ça bricole pas tant que ça. Ça fait match nul contre Burnley ou Fulham. Hein.
Burnley.
Oh, Fulham, quand même. Fulham. On a plein la mouche quand tu dis Fulham, ça vaut que dalle. Fulham, ça vaut rien. C'est pour ça que je te dis que ça bricole sec. Donc ils peuvent prendre 3-0, Liverpool.
Ah, d'accord.
Oui, le bricole, c'est dans le sens moyenâce.
Le bricole a un double sens avec Vincent.
Oui.
Voilà, attention. C'est comme dans le Robert, il y a plusieurs définitions.
Mais comme en anglais, des fois, t'as des choses qui ne veulent pas dire
la définition même. Ça bricole, c'est-à-dire, c'est plutôt pas mal.
Et puis
là, tu dis ça bricole.
C'est l'intonation qui compte. Ça bricole quand tu tombes, dans l'intonation, tu tombes, ça bricole. Bon, ça, c'est pas bon. Par contre, là, ça bricole un peu. C'est pas pareil.
J'ai croisé Darren Tulette hier par hasard. Tu connais Darren Tulette, le journaliste british en France qui travaille sur Beansport.
Toujours semblant d'avoir son accent.
Oui, il m'a dit attention au réveil de Liverpool.
Mais non, mais lui,
faites ce que vous voulez.
Non, mais ça m'échappe pas de paix. C'est Jan Birkin pour les journalistes.
Si Darren l'a dit, alors c'est 3-0 pour Marseille.
Et où est-ce qu'il se déplace, Liverpool, après Marseille?
À
Aston Villa.
À Bournemouth.
Bournemouth. La souris, quoi.
S'il y a des profs d'anglais qui écoutent, mais ils doivent être dans un état.
À Southampton.
Northampton.
Northampton. C'est Northampton. Southampton ou Southampton qui est parti le Titanic?
Southampton.
C'est une indication.
Il n'est pas arrivé d'ailleurs. Il n'est pas arrivé à destination.
Il n'est pas arrivé. Toujours. Le chef de gare là-bas, il attend toujours avec le drapeau et la casquette. Il dit mais où il est quand même.
Bon. Vas-y, Pierrot. Alors, on peut y aller, on peut démarrer.
Ouais, vas-y.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. Donc, Luis Enrique se voile-t-il de la face? D'abord, le PSG en difficulté battu en Ligue des Champions. OM Liverpool, ce match va-t-il faire basculer la saison de l'OM? Vincent règle le problème. Et puis le 15 de France. Alors, attention. J'en appelle à ton esprit révolutionnaire. Bon, je suis pas sûr qu'il soit très développé, Vincent, mais ce 15 de France.
Si, si, mais c'est pas la même révolution que vous. C'est pas tout à fait du même bord, mais c'est une révolution aussi.
Est-ce une révolution, justement, qui est en train de vivre le 15 de France?
Ah oui, c'est
jour. Ah, c'est peut-être ponctuel.
Ça y ressemble, en tout cas.
Ça y ressemble, oui. Quand ça pète les cadres comme ça, ça y ressemble.
Le journal moyen, première édition à 15h45.
Alors, un people, Vincent, qui s'appelle Philippe Etchebest, a raconté sur Canal Plus, il y a 3 jours, sa carrière de sportif de haut niveau. Moi, j'ai été bluffé.
Ah oui.
Je ne savais pas qu'il avait un tel niveau en rugby et en boxe. Et en plus, comme il a le même âge que toi et qu'il a joué dans le même club que toi, j'imagine que tu l'as croisé, tu vas pouvoir nous raconter ses exploits. Oui, rendez-vous 15h45.
Et puis, un monument en péril à 17h30. Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe à Monaco. Monaco en a pris 6 au Real, mais Monaco ne bat plus personne depuis le mois d'octobre. C'est complètement dingue. C'est catastrophique ce qui se passe à Monaco.
Ils ont battu le PSG.
Ils ont battu le PSG, c'est le seul perte de cette période.
Déprimant pour
sinon, c'est des victoires en coupe et des carreaux.
Ah, rien. Des carreaux.
Et carreaux sur carreaux. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Et ça ne fait que régresser. 6
à Madrid.
Quand tu fais 6, je pense que c'est plus que 60 points. C'est 70 points. Non, c'est 70 points. Marquer 6 buts au foot à ce niveau-là, c'est chaud du réchaud. Je te le dis, ça équivaut à 70.
Non, mais le 70, non.
Ah, mais si, 60, 70.
60, c'est la limite. Mais
déjà,
acceptable. 70, c'est plus acceptable.
Déjà, c'est deux fois plus facile de marquer au rugby qu'au foot. Ça fait 10 essais transformés, 70.
C'est vrai.
10 essais. 6 buts, 10 essais. C'est largement l'équivalent, c'est 70 points.
On m'engueule pas, si tu veux, on fait un débat.
Non, oui, demain. Demain.
Mais qui de gueule. Ceux qui partent bien en tête.
Bien sûr.
Et puis dans le Kikadi, on vous offre ce très beau cadeau, votre PC portable Altic. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. On va parler du PSG dans un instant. Écoutez-nous bien parce qu'on a un très beau cadeau à vous faire gagner. On a du mal d'ailleurs à savoir quel est le niveau de ce PSG.
RMC, le Super Moscato Show.
Anthony Bertéol est arrivé en Bretagne pour le travail.
On est fiers de faire un break.
Le joueur de 28 ans évoluait à un niveau régional.
Plus tôt il peut acquérir de l'expérience, plus tôt il arrivera aussi à un peu plus expérimenté.
Il a cherché un club de football pour poursuivre sa passion.
On a perdu parce que c'est football de mer, c'est un sport de mer.
Un plus pour cette équipe de district à la lutte pour la montée.
Il fait partie, le PSG commence la compétition avec l'ambition légitime de...
Avec 3 équipes de seniors, le club fait preuve de vitalité.
Tu mets que 2 personnes ou 4 éventuellement, tu divises par 2, t'as donc 4 fois 4, tu as 8 personnes, enfin 12 personnes qui peuvent jouer en même temps.
Anthony, lui, ne regrette pas son choix.
Je suis très content.
Ça n'a jamais été mon truc, autrement, on prend d'autres des exigences.
Breaking news. Ça part bien.
Non mais là,
la petite Sarah quand même.
Je soupçonne.
T'étais forte en maths.
Mais je soupçonne qu'on ait coupé mon propos pour tout mélanger.
Non,
je soupçonne ça.
On me dit que c'est bio. C'est bio.
Bien, mais toi, il n'y a pas besoin de montage.
On parle du PSG qui a perdu au Sporting Portugal, un match qu'il a dominé assez nettement d'ailleurs. Et donc pour Luis Enrique, c'est injuste, Vincent. C'est pas faux. Mais quelques chiffres sont quand même assez inhabituels avec cette équipe. Ça fait 2 défaites lors des 3 derniers matchs. C'est seulement 4 points pris lors des 4 dernières journées de Ligue des Champions. C'est aussi 9 buts encaissés lors des 4 derniers matchs de Lucas Chevalier en Ligue des Champions. Alors Luis Enrique se voile-t-il la face? 32-16. Il a une expression bien à lui, Luis Enrique, pour exprimer sa frustration.
On a perdu parce que c'est football de mer, c'est un sport de mer, parce que tu n'as besoin de faire si merde en espagnol, de mer. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport est peut-être est aussi injuste. Enfin, c'était ça. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Je suis habitué à ça. Et c'est frustrant. Et vous qui aimez les critiques, je voudrais féliciter mes joueurs. Je suis très fier de ce que j'ai vu. Et pour moi, c'est la manière pour arriver très loin dans cette compétition. Et c'est ce que j'espère.
Voilà. Est-ce qu'il se voit la face?
Je vois pas la face. Il exagère. pour pas enfoncer ses joueurs, pour être du côté de ses joueurs, de dire non, ils ont dominé de toute façon. Ils ont dominé, parce que j'ai vu quand même les mecs ont dominé outrageusement. Ils n'y arrivent pas.
Il dit c'est la faute au foot, quoi.
Seulement, il va pas se tuer le groupe, parce que quand tu domines comme ça, il manque pas grand chose. Il manque la concrétisation. C'est pas grand chose parce qu'il a les joueurs pour concrétiser. Il y a des clubs, tu domines, mais tu marques jamais parce que t'as pas les mecs. T'as pas les attaquants pour concrétiser tes actions et tout ça. Là, il sait qu'il y est. Donc, il les enterre pas. Il est juste, avec bien entendu un peu plus dans son sens que dans l'autre. Il va pas dire qu'il y a sûrement des. Il aurait pu dire, mais on a été moyen quand on concrétise pas, mais on n'est pas une grande équipe. Il aurait pu dire ça. Lui, il optimise. Il optimise parce qu'il sait que son groupe peut faire de grandes choses. Donc je trouve qu'il est plutôt assez juste. Il a manqué des matchs. Souvent, tu domines. On parlait des entraîneurs qui, des fois, sont mauvais, ont des résultats. Eh bien, l'équipe la meilleure, là, n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. Souvent, l'équipe la plus faible, elle a gagné. Ça, c'est l'histoire du foot. En général, le foot, il n'y a pas trop de buts. Donc, tu peux te faire contrer. Tu peux avoir 70% du ballon et te faire contrer. C'est ce qui s'est passé un peu hier avec le PSG. Donc, moi, je trouve qu'il est. Il est juste dans ce qu'il dit.
Tu comprends son argument? C'est un sport de merde.
Je comprends son argument. C'est ce que je te dis. Ce sport, mais comme il dit, c'est un sport qui est un peu, parfois, qui est quand même injuste. C'est ce qu'il faut aussi, le spectacle. Parce que, t'attends jusqu'au dernier moment. Celui qui domine n'a pas gagné. Au rugby, tu domines, t'as gagné. Au basket, je pense que si tu domines, ça t'entoure les ballons. En plus, le terrain est petit, t'as gagné. Je veux dire, c'est comme ça. Au foot, non. Au foot, ça marche pas comme ça. Donc, oui, parfois, c'est injuste. Je le comprends. Son discours, il est impeccable.
Denis ? Non, mais il se voile pas la face. Et puis, je trouve que son discours est parfait, dans la mesure où il le dit lui-même, il y a beaucoup de frustration. C'est la frustration de l'entraîneur qui voit que ses joueurs n'y arrivent pas malgré un bon match. Moi, j'ai vu un bon match hier du PSG, à part bon, quelques individualités comme Barcola ou Doué qui sont pas revenus à leur meilleur niveau. Mais après, j'ai trouvé ce milieu de terrain solide, la défense plutôt solide, le gardien un peu fébrile. Bon, il y a des carences, mais Luis Enrique, je crois que ça vient après l'élimination en Coupe de France surtout. Souviens-toi, on a perdu
le même scénario,
mais pire, je pense.
PFC. En plus,
je pense que c'est pire parce qu'il y a 24 tirs au but, je crois, ou je sais plus combien, et tu perds 1-0 à la fin. Mais c'est un peu pareil. Lui, il en a marre, quoi. C'est la deuxième fois en 15 jours.
Il pensait que c'était réglé avec Lille.
Oui.
Face à Lille, ça a bien marché.
Oui, parce qu'ils ont gagné 3-0.
Oui, c'est pour ça qu'il a la rage un peu, non ?
Ils ont gagné face à Lille, mais pas autant facilement qu'hier. C'était pas le même match qu'hier. Contre Lille, je trouvais que c'était un peu laborieux. Première mi-temps, d'ailleurs, des Lillois avait été plutôt bonne. Mais hier, tu refais 10 fois le match, tu le gagnes 9 fois. Enfin, je sais pas, tu le dis de même, Piro, je crois que t'as écrit sur notre groupe WhatsApp, il y a 3-0 à la mi-temps, normalement. Et c'est vrai que si tu regardes.
Ah, normalement, c'est-à-dire s'il joue bien les coups.
Il ne dit pas tout ce qu'il a écrit sur le groupe.
Il les joue mal, mais c'est vrai qu'il domine tellement leur adversaire, tu te dis, mais ça va rentrer à un moment donné. Ouais. Puis la frustration de Luis Enrique, c'est que on égalise, parce que je me mets dans la peau du supporter, mais le PSG égalise, et là tu te dis, bon, ça va dérouler, il reste 10 minutes, je sais plus combien il reste, ça va gagner, quoi. Même là, puis tu vois la domination, et puis là, un relâchement, et puis là, je pense que t'es entraîneur, t'as les boules. Je pense qu'il a les boules contre ses joueurs. Il va les défendre. Il a les boules. Donc c'est pour
il
ça.
Il a les boules, mais il a fait une belle fève hein, quand même sur la fin, quand même. Hein, parce que
Louis tu prends le but encore une fois sur sa dinguerie. Oui, hein, je suis désolé. Hein,
dinguerie,
le but vient du côté droit où il fout un mec qui a rien à faire là, mais vraiment rien.
Mais en plus,
t'es quand même puni par tes choix et par tes illuminations là. Ouais. Hein, parce que des fois, il est un peu illuminé.
Puni par tes choix, Pierrot, et tu punis le joueur pour moi. Parce que le joueur, il a rien demandé.
Il a rien demandé lui.
Il a rien demandé et surtout, ils sont dans une position tellement inconfortable qu'elle arrive
que. Il est la cause du but. Un petit peu quand même, parce qu'il a pas tort sur la globalité du match, il a totalement raison. Mais il n'empêche que tous ses choix, quand même, à la fin, comptent.
Ouais,
ses choix de direction sportive et dans le match.
Il se sent content pendant le match, il dit à un moment donné, ça va basculer.
Il pense
que ça va basculer, donc il se dit, on va mettre lui à cette place-là.
Il pense parce que ça a souvent basculé en leur faveur. Ils ont fait aussi des matchs où ils ne méritaient pas de gagner, ils s'en sortent. Le dernier en date, bon, ça compte pas pour grand chose, c'est le trophée des champions, il mérite pas le de gagner face à l'OM. Donc il y a quand même eu des situations où
ils méritent pas, mais ils sont allés le chercher.
Pardon.
Oui, mentalement,
ils
cherchaient quand même.
Oui, enfin, d'accord, mais enfin, quand tu marques à la 95e, quand tu marques à la 95e, c'est quand même un peu dangereux. Et il y a des matchs où ça jouait pas bien et ça marquait pas et ils s'en sortaient. Donc, j'ai envie de te dire, la pièce, tu la lances et parfois, elle retombe pas du bon côté. Mais voilà un petit peu la face quand même, parce que tous autant
qu'on est ou de ceux qui commentent le foot et notamment le PSG depuis le début de la saison, on est tous d'accord sur un constat. C'est que ils sont moins tranchants. Voilà. On est tous d'accord. Oui, mais... Ils sont moins dominants. Enfin, ce sont des mots qu'on entend même quand ils sortent vainqueurs.
Ils sont moins bons.
Je sais pas, mais moins tranchants. Donc mais en fait, il y a un moment. Ça retourne de l'autre côté. Et il y a quand même un point. Pardon, et on fait quoi de chevalier ?
Ah, ça c'est un vrai sujet.
On fait quoi de chevalier ? Est-ce que chevalier et le bon gardien, en même temps, ils n'ont pas le choix, puisque Safanov est blessé.
T'as raison, parce qu'il dit, je suis très content des joueurs.
La phase finale de Ligue des Champions.
Lucas Chevalier était au frigo, l'autre avait fait un match énorme, l'autre il se blesse, il le remet, il fait un bon match. Il envoie sur des fausses pistes Chevalier, des fois il est bon, des fois il est pas bon. Donc il sait plus, c'est pas sérieux de sa part.
Il a besoin de temps pour Chevalier. Oui, mais que Chevalier ait besoin de temps en Ligue 1, j'ai envie de dire, il y a un tel écart qu'à la rigueur, j'ai vu une stat, il a pris 13 buts depuis le début de l'année en Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, t'as pas le droit d'avoir du temps.
Non, mais la stat d'hier, elle est terrible. 4 tirs, 2 buts. Hein.
Mais oui, comment tu fais en phase finale de Ligue des Champions ? Est-ce que cette équipe peut se présenter ? Marquer, c'est une chose, mais il faut pas en prendre.
Ce qui est inquiétant, c'est que ce qui t'a fait à partir d'il y a un an jour pour jour, c'était là où ça démarrait. Ce qui te faisait gagner, c'était ton efficacité.
Et ton gardien qui te sauvait les matchs.
Et ton collectif et ton gardien qui était largement au-dessus du collectif. Ce collectif était très brillant.
Ça, c'est inquiétant, le gardien, quand même.
Moi, je pense qu'avec ce gardien, ça marquera les limites du
pays. Il faut changer, tu crois?
Je pense qu'il faut qu'il retente un truc. Faut qu'il retente un truc parce qu'il est irrégulier. Il avait fait un bon match, et puis là, il retombe dans ses travers. Denis l'a dit. 4 tirs, 2 buts. C'est pas possible. 4 tirs.
Non, mais surtout, le premier but, c'est niveau. Le premier but, il renvoie le ballon, tu peux pas te permettre.
Deuxième but. Le contexte des buts, c'est une chose. Mais 4 tirs, 2 buts, c'est pas possible.
C'est pas décisif.
Tu peux pas avoir un gardien comme ça.
Ça fait quoi en pourcentage de réussite, ça?
Alors, 4 fois 4, 8 fois 2, ça doit faire
pas loin de 52%. Allez, Luis Enrique, se voile-t-il la face? Nous allons donner la parole à un supporter du Paris Saint-Germain, David, au 32-16. Salut David.
Ouais, salut tout le monde.
Comment ça va, David?
Ouais, ça va. Un peu amer d'hier, mais bon, ça va sinon. Mm-hmm. Mais bon.
Alors, t'es d'accord avec ton entraîneur ou pas, toi?
Ben après, quand il dit sport de merde, moi je suis un peu d'accord. Hein. Il y a que dans le foot que tu domines autant et qu'à la fin, sur deux tirs, le premier, une frappe déviée qui arrive dans les pieds de l'attaquant. Et le deuxième, vous avez parlé de lui, de Chevalier. Bon, pour lui, le deuxième.
Hein. Après, David, il aurait pu employer la même expression après le trophée des champions.
Ben oui.
Ou après le.
Ouais, mais entre les matchs que dominer, tout ce qu'on domine, il y en a pas beaucoup, on se fait dominer quand même. Et là, hier, l'équipe, ils dépassent 5 fois le milieu de terrain et ils marquent 2 buts. Et en première mi-temps, ils ont pas aligné 3 passes. En deuxième mi-temps, un peu plus, mais c'est sur un corner qui revient, il ne frappe, l'autre, il se retrouve tout seul.
Oui, c'est.
Et l'autre, Chevalier, il, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, le deuxième, il repousse le ballon sur une tête et après, il fait la statue, il bouge même pas sur le deuxième tir. Ouais.
Sur le premier tir, il est pas, il peut rien faire.
Le premier tir, il est sur lui, il peut mettre les poids ou mettre sur le côté, c'est compliqué, faire autre chose.
Je parle du premier but,
il peut rien, il le place, l'autre seul.
Bon, après les chevaliers, c'est le propre, quoi, j'ai bien compris.
Zabarni à droite, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, il fait déborder.
Ce qui est terrible.
Les 3 fois.
Si ça veut pas sourire, il va réussir le deuxième goal, qui va se planter aussi. Méfie-toi, c'est ça qui est terrible. Il était en pleine force de frappe,
Safonov. Il a fait un coup d'éclat au bon moment. L'année dernière, il avait joué, c'est pas un excellent gardien.
Sur la confiance, des fois, c'est comme ça que les gardiens passent un cap. Sur la confiance, oui, mais ce poste-là, il est curieux. Des fois, tu vois des mecs moyens courriers, pam, un match match de confiance plein Madel.
L'erreur de Donnarumma l'année dernière.
Erreur Dembélé qui arrive avec les Nordiques.
Donnarumma, il a eu un déclic.
Il mettait des buts de partout.
Mais il a un bagage qui est très supérieur à ces mecs-là.
Ouais, attention, pendant 3 ans, tu te demandais où il était.
Donnarumma, le problème, c'est toujours.
Le bagage était.
Le problème de Donnarumma, il a toujours été un très bon gardien avec des défauts. Avec des défauts. Là, c'est un peu l'inverse. C'est un gardien correct avec, avec des qualités, qui est capable de faire des exploits. Donc, je pense que t'es pas dans la même catégorie de joueur, quand même.
Donnarumma, pendant 3 ans, il avait une roulette pétée. Non, il roulait sur une roulette. Je te le dis, quand il a traîné
la valise dans la touriste, Pierrot, souviens-toi.
C'était
quand
pas l'assurance touriste. On est
Donnarumma,
d'accord.
Il a fait 6 mois énormes. Ouais. 6 mois énormes. Non, mais gars, pendant 3 ans, t'avais envie de le
changer. Oui, mais qu'il avait un background différent.
Il faisait des dingueries qui te flinguaient. Mais pour autant, à Madrid, c'est l'exemple type.
Des
à Madrid, quand il se fait prendre le ballon par Benzema, il fait sa dinguerie, mais dans le match, il est très bon.
Oui, très bon. Hein.
C'est ça le défaut de Donnarumma, mais c'est un très bon gardien.
Il faisait beaucoup d'arrêts extraordinaires, c'est vrai. Oui,
quand même.
C'est vrai.
Frédéric, au 32-16.
Ouais, salut les gars, salut Pierrot, salut Vincent, salut Denis.
Alors, gérant de société de machine à café.
J'ai connu les gérants de société de machine à sous, mais c'est pas pareil.
C'est bon, ça. C'est bon, Vincent, ça.
On va te donner notre adresse avec Vincent.
Un petit peu pour eux, beaucoup pour moi.
30 centimes pour des cafés de merde, c'est pas un peu trop cher quand même?
C'est bien, Vincent, c'est bien. Ils connaissent que dalle.
Pourquoi c'est toujours mauvais les cafés des machines, des distributeurs?
Non, mais les gars, au bout d'un. Non, mais le problème, c'est que. Enrique, il va jamais dire
T'as pris la droite, t'as mis l'opinion.
Vas-y.
Non, mais Chevalier, c'est impossible, les gars. À chaque coup qu'il y a un tir, il sort pas sur les centres. Pierrot, il a raison. Donnarumma, c'était un grand gardien avec quelques défauts de temps en temps. Et l'autre, c'est vrai, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, la seule chose qui est vraie, c'est que l'année dernière, Safonov, tu le mettais, tu voyais la différence avec Donnarumma. Là, tu fous Safonov, il est meilleur que lui.
Oui, bien sûr.
Si l'année dernière, on va se dire la vérité, oui, t'as eu de la chance, t'as eu une bonne équipe. Mais honnêtement, les mecs, si l'année dernière, on enlève juste un joueur, on enlève Donnarumma et on met Chevalier, est-ce qu'on est champion d'Europe?
Oui, attends,
si t'enlèves
Donnarumma et tu mets
Navas. Non, mais là, tu dis une bêtise. Tous les grands clubs qui ont été champions d'Europe, ils avaient un grand goal.
Courtois
et tout.
Et alors, est-ce que Chevalier, c'est un joueur?
Joseph Antoine Lebel.
Non, mais tu parles de l'année dernière, mais.
Mais franchement, les deux premières saisons, tous les week-ends, on avait une raison de virer Donnarumma. On ne l'a jamais fait. L'année où il casse tout, il arrache tout.
Et Chevalier va faire pareil.
Et nous, on s'en sépare.
Le fils de Maurice, peut-être qu'il va faire pareil.
Frédéric, qu'est-ce que penses de la fin de saison? Ça va se terminer comment, la Ligue des Champions?
Mais non, mais ils jouent bien, franchement, hier. Tu peux rien leur reprocher, ils ont fait un super match. Il fait comme disait Vincent. Vaut mieux perdre ce match-là avec. Il n'y a que la finition. Est-ce que tu peux préférer pas le perdre ce match-là parce que tu te dis, une fois sur 10, tu vas le perdre, ou que tu vas jouer, ou que tu vas mettre 2 buts, tu sais pas comment tu les as mis, et tu vas le perdre, tu vas en faire 10, tu vas en perdre 9.
Non, mais c'est
dans le vrai, là.
J'aimerais que vous répondiez à une question. S'il y avait eu Navas, tu aurais été champion d'Europe?
Kylian Navas.
Ah oui, l'année dernière, Navas, son meilleur niveau,
Tu te rappelles, quand il est parti, quand
il a fait signer. S'il avait été là,
Donnarumma a fait des matchs incroyables dans la phase élimination directe.
C'est fou, quoi. Il avait été énorme. Moi, j'ai vu des
arrêts. Souvent blessé à la fin.
Alors, si vous aimez le Paris Saint-Germain, écoutez-moi bien, parce que c'est maintenant que l'occasion se présente de gagner votre expérience RMC pour le dernier match de cette phase de poule de la Ligue des Champions. C'est PSG Newcastle. Dans une semaine, mercredi prochain, 21h au Parc des Princes. Vous assistez aux émissions d'RMC avant et après le match. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous verrez Gilbert Bribois en vrai.
Ah ouais.
Et
ah,
ensuite, évidemment, vous allez au Parc des Princes avec la personne de votre choix. Vous envoyez maintenant PSG par SMS au 732-16. Vos places PSG Newcastle se gagnent uniquement sur RMC et ça, c'est maintenant.
Ça, c'est de la place, quand même. C'est du cadeau. Je trouve qu'on ne se bouge pas avec les coudes sur les cadeaux. De toute.
On est bien sur
c'est vrai, cadeaux, entre les trucs là, de Celtic, les trucs. De... Les ordinateurs là.
Altic,
tout ça, les 130 000 euros, tout ça, c'est magnifique. Des cadeaux de fou.
Et des belles en bras.
Oui, des belles en bras. Comme s'il a pleuvé, quand tu vas te faire des petits soins, t'es verré la rouquine.
Et
on partirait.
T'as fait le tour de tous les belles en bras, toi, non?
Les belles en bras, oui.
Ouais.
J'avais fait la fête des voisines dans les belles en bras, toi, le soir. La fête des voisines.
Dans un instant, Sarah Pitkowski, ici présente, va choquer Vincent Moscato. Je peux vous dire qu'il en faut pour choquer Vincent.
Oula, quelle heure est-il? Le super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h34, on est dans le Super Moscato Show. On y revient, bien entendu, au Mastic. Denis Charvet est avec nous, bien sûr, Sarah Piposki, Adrien Aigouin, Pierrot. Dans demi-heure, clac-clac, c'est le programme.
On va parler de ce OM Liverpool. Ce match peut-il changer la saison de l'Olympique de Marseille? Vincent règle le problème avec Eric Dimeco.
Bien sûr.
RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show.
Vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ce qui arrive, le meilleur tournoi du Grand Chelem, Vincent. Ce n'est pas Wimbledon, ce n'est pas Roland-Garros, non. C'est cet Open d'Australie qu'on est en train de vivre. C'est ton avis, Sarah?
Oui, est-ce que vous connaissez le nom de l'Open d'Australie? Mais parce que je sais que vous êtes bilingue.
Non,
mais parce que vous êtes bilingue, je le sais. Il s'appelle le Happy Slam.
Ok. Happy Slam, on
l'a trouvé. Oui, il s'appelle le Happy Slam. C'est sa véritable dénomination aujourd'hui. C'est non, pas spécial. Mais c'est le tournoi préféré des joueurs. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce tournoi, il faut savoir qu'il a été longtemps boycotté. Dans les années 80, il se jouait à la période de Noël. Et il faut savoir qu'il y avait à peine 5 joueurs du top 30 qui faisaient le déplacement pour jouer l'Open d'Australie.
C'était d'ailleurs, quand même un grand chelem.
C'était un grand chelem. D'ailleurs, pendant quelques années, ça a été vraiment en balance.
Limite.
Le prize money était vraiment tout petit. Faible. La date, pendant les fêtes de Noël, autant vous dire que les McEnroe, les Borg, pas du tout envie de traverser
la distance,
effectivement, faisait que ce tournoi n'était absolument pas attractif du tout. Et puis, petit à petit, ils ont opéré une révolution. Alors, ils se sont appelés le tournoi de l'Asie du Sud-Est pour essayer d'aller chercher des sponsors. Et puis après, ce tournoi aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, il faut savoir que c'est le plus grand de tous. 20 hectares.
Ah ouais.
3 terrains. Ils ont 3 chaux courtes qui ont des toits. C'est le seul grand chelem. Ils font 1,2 million de spectateurs. Il n'y a pas un grand chelem qui font autant de spectateurs sur les 15 jours. Et puis, ils ont su accueillir les joueurs. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, ils donnaient même un per diem, c'est-à-dire une bourse aux joueurs pour payer leur billet d'avion, pour les inciter à venir en Australie, parce que tu viens pas en Australie juste pour l'Open d'Australie, tu fais les tournois préparatoires. Et donc en fait, ils ont investi énormément pour que les joueurs se sentent bien. Mais alors, je vais vous raconter où est le tournoi. C'est-à-dire qu'il est en plein cœur de Melbourne. T'es à peine à 500 mètres de l'hôtel. T'es à peine à 500 mètres du centre-ville. Les joueurs font tout à pied. T'es un spectateur, tu peux croiser n'importe qui dans un resto le soir, de manière très sympathique. Et puis il faut savoir que eux sont en plein été, c'est les vacances.
Et oui, ça change.
Et il y a ces histoires de supporters, oui, c'est Vikings. T'as des Vikings, tu sais pas d'où ils sortent. Et puis après t'as les Bataves, t'as les pays, t'as les Hollandais, tu sais pas d'où ils débarquent. Et là depuis quelques années, il y a aussi une grosse communauté de Français qu'on entend. On a entendu face à le dernier match de Gaël Monfils, mais ils sont une cinquantaine dans les tribunes. Et en fait, comme le site est très grand, les places sont accessibles. Et donc en fait, finalement, même quand tu vas faire tes études là-bas ou t'es en déplacement, eh bien, tu peux facilement avoir un billet, ce qui n'est pas le cas.
D'accord.
Certainement à Wimbledon ou à Roland-Garros pour obtenir des places, c'est la croix et la bannière. Ouais. Donc en fait, finalement, il est accessible à tous et donc il y a une ambiance très balnéaire et les joueurs adorent ça. Et donc ce qui fait aujourd'hui qu'on l'appelle le Happy Slam et vraiment, c'est ressenti comme ça.
Melbourne, chaque année, Paris qui est invité depuis 10 ans, c'est Jason Bourne. Ils le font venir.
Ils sont innovants.
Ils sont très innovants. Il y a quelques années, il y a 4 ans, ils avaient fait un teaser avec un drag queen qui était en plein milieu du central et qui se mettait à chanter. Année, ils font des concerts, mais des vrais concerts en amont de la night session. Et il y a cette histoire de One Point Slam qui a fait un tabac. Ouais, c'était de gagner un point face à un professionnel pour gagner le 1 million de dollars australien.
Mais c'est eux qui
innovent. Ça a fait un tabac.
Je vais te dire, il n'y a rien de plus que les mecs qui ont été mal. Ce tournoi, il a failli disparaître, c'est vrai.
Et
les mecs se renouvellent et ils ont tellement peur que c'est eux qui sont les plus créatifs.
Ils bousculent véritablement les codes. Et c'est les seuls
à
avoir remis cette année en ouverture. Federer était sur le court. Il n'y a pas un grand chelem qui a réussi à remettre Federer sur le court, sachant que pourtant son sponsor horloger est partenaire des autres grands chelems. Pourtant, il y avait 4 numéros 1 mondiaux pour faire une démonstration. Agassi, Federer, Roger Federer, Leighton Hewitt, Patrick Rafter.
Et puis l'ambiance, ça fait tout. Je vais te dire, même au tennis, où ils sont un peu cupincés, tu sais, ils ont un peu un tuteur à géranium dans le jour.
De moins en moins. Hein,
écoute-moi, de moins en moins. C'est l'ambiance, ça fait tout. À un moment donné, les gens, ils aiment s'amuser. Et là, il y a une ambiance un peu troisième bon enfant. Ça picole de la bière. Mais c'est aussi à Sydney,
oui, oui,
c'est à
l'île australienne. Oui, oui.
Comme ils voyaient personne, quand ils voyaient des mondes qui arrivent des autres continents, ils disent, oh, c'est
après,
bizarre.
Oui, un peu comme un kayak.
Ouais, mais non, mais c'est vrai, quand tu arrives dans l'Aveyron, les mecs sont contents. Quand tu arrives à Rodez, c'est des mecs qui disent, putain, vous venez, ça faisait longtemps qu'on avait vu quelqu'un.
Vincent, soyons le chauvin aussi. Moi, je vais défendre un peu Roland Garros dans un quartier extraordinaire. Il y a des cours dans le jardin des serres d'Auteuil.
Oui.
C'est magnifique.
Mais c'est
magnifique. Et pareil, tu es dans Paris.
Oui, les joueurs sont contre les autres grands chelems. C'est qu'en fait, chacun a une identité très particulière. Je veux dire, la tradition de Wimbledon, il ne faut pas y toucher. Le brouhaha à New York, il ne faut pas y toucher. La classe de Roland Garros avec sa terre battue. Cette couleur naturelle, c'est différent. Mais celui-là, il est placé en début d'année.
La grande différence, Sarah, c'est quand même le prix des places. Excuse-moi, mais les prix des places, que ce soit à Roland ou Wimbledon, c'est hors de
Garros.
C'est très élitiste quand même.
Oui,
non, on va pas se dire le contraire.
Je pense que c'est peut-être celui qui est le moins élitiste des quatre.
Il y a un parfum particulier à Roland Garros.
Le plus populaire.
J'ai un ami qui a l'appartement de Denis Charvet. Il y a un parfum de cette odeur.
Il habite à Roland Garros, c'est vrai.
Il habite à côté en bordure. Ça vaut 20 000 le mètre carré. Il est sous la chaise, il y a 150 mètres carrés, ça vaut 3 millions plus le truc, c'est
20 000 en étage bas. Écoute, quand c'est
tu sais
mal éclairé,
que quand tu rentres chez lui, t'as des patins.
Il y a un jardin, il y a un jardin aussi.
C'est des patins que tu mets sur le parquet. Il y a des patins, comment ça s'appelle, ces petits trucs croisés.
Ce qui est encore plus injuste avec la billetterie de Roland Garros, Denis, c'est que ces places si chères, les riches ne les payent pas et c'est les pauvres qui les payent.
Oui, mais alors ça,
tu sais quoi, je me suis lassé.
Je ne suis pas vraiment contre.
Même invité, j'y vais de moins en moins.
Écoutez-moi ça.
L'autre jour, il y avait quand même mon fils qui jouait. Il m'a sorti de Roland Garros.
Denis, t'es suspendu 5 minutes pour ce que tu viens de dire.
Mais tu sais pourquoi? Mais je vais t'expliquer la démarche psychologique. Quand t'es invité, mais t'y vas plus.
Mais tu sais
pourquoi?
Compte.
Mais non, mais je vais t'expliquer pourquoi.
Moi, je suis choqué, là,
parce que l'argent que tu ne gagnes pas, tu le dépenses vite.
Sûr.
Et puis, bien sûr, ça n'a plus de valeur.
Il y a un
moment des invitations. Toi, si je devais aller voir France-Irlande, si on m'invite, j'y vais.
Je viens de dire, je suis tellement souvent invité, je me suis lassé, j'y vais plus.
Je plaisante.
Tu sors. C'est une boutade. Tu sors.
Non, mais
journal moyen.
Non, mais c'est vrai que c'est dur pour les pauvres, mais les pauvres ont rien pour vous. Voilà, c'est tout.
Si,
voilà.
Votez à gauche et vous pourrez quelque chose pour vous.
Oui, mais non, allez, Adrien. Vous démerdez, vous faites une caisse à part. Non, mais maintenant, les mecs qui votent à gauche, vous faites une caisse à part parce que nous, on veut pas.
Tu veux, ouais.
Voilà. Ah oui, si, il va y en avoir.
Adrien. Bon,
il vous a plu, moi, à Bislam ou pas?
Vous faites le papier, on participe, les niches.
Journal moyen, première édition. Un people, star de la télé, star de la cuisine, qui dans une interview. Sur Canal Plus a révélé son passé de sportif de haut niveau. Je ne sais pas à quel point il était aussi haut placé dans le sport. Et comme c'est la même période de Vincent Moscato, tu as dû le croiser, Vincent.
Mais Michel Drucker, qui était pas maladroit en vélo et qui avait un très bon niveau
de
vélo.
Pas qu'il avait le Tour de France non plus, Michel.
Il n'est pas loin, des fois il était un peu chaud. 15h42, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h47, le Super Moscato Show, on y revient bien sûr, Mostique. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, première édition.
Première édition sur RMC, l'actu, la culture, les médias et la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, parfois on a des urgences gastriques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Estelle Denis nous a fait des révélations hier dans son émission assez étonnante.
Non.
Estelle, oui. Philippe Etchebest raconte sa vie de sportif de haut niveau, mais à un niveau au niveau de Vincent. Et puis Wembanyama vend beaucoup de maillots NBA.
Tu m'étonnes.
Phénomène. Il a battu une légende là depuis 6 mois. Vous écoutez RMC, c'est le 2498e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
On débute avec un instant assez étonnant, vie quotidienne, vie intime, même offert, instant offert par Estelle Denis dans Estelle Midi hier, entre midi et 15h. Alors là, cette anecdote va plaire au Moscato Show, je pense qu'elle va parler à tout le monde, peut-être pas à Sarah, mais à nous tous. On parle des vacances, et dans certains pays comme en Italie, on sert et on boit le café très serré. Café très serré. Et pour Estelle, en plein milieu de la discussion, sujet vacances, elle dit attention, il y a un gros problème. Quand on boit le café serré en vacances avant de partir en excursion, en balade, il y a des problèmes à gérer, les confidences, comme ça, sans filtre, d'Estelle Denis.
tout petit expresso en Italie, c'est quand même le truc incroyable.
Mais t'es pas obligé de le voir comme ça. Tu peux également demander un double si t'as envie.
Faut que tu sois avec ta chambre à côté, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Quand tu bois le café italien, tu peux pas partir en excursion. Enfin, je veux dire, c'est pas possible.
Je sais pas si.
Et c'est le moment où tu dis à ton compagnon.
Donc tu t'es dit que ta vie intime a intéressé tous les auditeurs.
J'ai oublié un truc dans la chambre.
Oui. Commence sans moi, je te rejoins. Je vais chercher un truc.
J'ai oublié mes lunettes. Mais tu pars en courant.
C'est ce qu'on appelait la règle des 3C.
Oui.
À l'époque, café, cigarette.
Et puis le reste. Voilà. Non, mais Estelle, fascinante, hein, elle raconte sa vie. Voilà.
Mais non, mais elle est fraîche. On n'en parle pas assez.
Je pense qu'elle écoute trop le Moscato.
Ouais,
je pense que c'est normal de parler tout ça publiquement.
Je pense que
elle est prête à nous rejoindre.
Je pense que des fois, je dois lui déteindre un peu dessus. Ouais.
Merci Estelle, ça
le passage
Estelle.
Antenne, je pense.
Le passage antenne, ouais. Des fois, je sens qu'elle a marre du passage antenne.
Sans transition, on parle d'une star de la télé, d'une star de la cuisine, mais aussi d'un grand sportif. Il a toutes les qualités du monde. Jingle.
Oh merde! Oh, c'est con ça!
Philippe Etchebest, vous le connaissez tous, Philippe Etchebest, 59 ans, le chef le plus connu de France, médiatisé, star de la télé également.
Bien sûr.
Et là, étonnant, aussi vraiment, on sait qu'il adore le sport, mais moi je ne savais pas qu'il était sportif de haut niveau. Denis, je sais que tu as vu cette émission, il était l'invité de l'émission En aparté sur Canal+. Il parle de ses deux carrières de sportif de haut niveau.
Il en parle comme d'une carrière.
Oui, je ne savais pas. Okay. Écoute ça, Sarah, il explique qu'il a dû choisir un moment quand même entre la cuisine et le rugby. Et qu'il était un joueur de rugby de première division. À ton époque, Vincent, puisqu'il a le même âge que toi, et quasiment dans les mêmes clubs, on l'écoute.
Puis finalement, la cuisine m'a adopté.
Ah ouais, voilà.
Et c'est elle qui me nourrit aujourd'hui depuis 40 ans. Je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Et j'ai quand même pu avoir cette chance de pratiquer le sport à haut niveau pendant plusieurs années. Je joue en première division à l'UBB et j'ai joué même à Paris au CSG, club qui était en deuxième division à l'époque. Et ensuite, je me suis mis à la boxe.
Eh oui.
Voilà, il a priori la boxe, mais donc il a joué en première division à l'UBB, incroyable. Maigle à l'époque.
Mais vous êtes au courant?
Il jouait à Bordeaux à l'UBB. Ouais.
C'était avant son titre de champion du monde de trampoline. Et après, il a été champion d'Europe de
chaque coup. Attends, parce qu'après, Pierrot.
Le ping-pong aussi.
Et en plus, au CSG en deuxième division, tu as joué en deuxième division au stade français CSG.
Oui, le stade français.
Quand Max avait repris le club, il était monté, je crois, de 2-3 divisions. Et en Pro D2, je jouais à Brive. Ils m'ont fait venir en Pro D2.
Mais nous, ça s'appelait stade français déjà.
Oui.
Ça faisait pas CSG.
Alors, les deux. C'était stade français,
Et après, il parle de la boxe. Vincent, il dit que tout jeune, il a commencé à s'entraîner avec un pro que tu connais peut-être. Et ses entraînements avec ce professionnel, tous ses entraînements l'ont amené un titre de boxeur.
On avait un mec qui s'appelait Quinquina Larmé, qui était un pro. Il était très très bon. Et moi, je passe en deuxième. Deuxième reprise, droite au menton, bram, par terre. Et quand je suis rentré, je partais au travail et je me suis dit, j'étais sur la moto, je me suis dit, ce mec ne me remettra plus jamais KO. J'étais fixé là et je m'entraînais tous les jours avec lui. Tous les jours, je faisais des reprises, on faisait des sparring. Et il m'a fait évoluer, bien sûr, parce qu'il était très fort. Il m'a fait grandir. Et j'ai eu la chance de pouvoir être champion Midi-Pyrénées en mi-lourd à cette époque-là, en 93.
93, champion Midi-Pyrénées mi-lourd. Bravo. Tu as pu croiser sur le ring, Vincent, en 93, tu faisais de la boxe aussi.
Oui.
Toi, t'étais lourd.
T'as commencé en 92, toi? Non, la boxe, non, ouais, 90. Ouais, je pense que j'ai fini en 80. Mes derniers combats, ça doit être en 93.
En tout cas, 93, il adore le sport, Philippe.
Ah non, c'est
parmi les sportifs. Il raconte une anecdote de rugby face à un grand joueur. Vous voulez que je vous la lise?
Ouais.
La dépêche du midi, en 2018, j'ai retrouvé ça. Il est à Tarbes pour le boulot. Il est retourné à Tarbes. Et donc, dans le papier, ils disent qu'il n'est pas retourné à Tarbes depuis l'âge de 19 ans, lorsqu'il était joueur de rugby à Bègles, saison 86-87. Et qu'il avait rencontré son idole. Il dit, je joue face à mon idole, Philippe Dintrans. Et il dit, le seul souvenir que j'ai de ce match, il a 19 ans, c'est qu'à un moment donné, le ballon était en l'air, que Philippe Dintrans le réceptionne en face de moi. On s'est retrouvés tous les deux face à face. Et que je lui ai mis un plaquage monumental. J'étais fier.
Philippe Zintrans qui réceptionne un ballon. Alors là, déjà, ça commence mal. Là, il y a énorme flûte. Non, je suis désolé.
Philippe Zintrans, il rattrape les ballons.
Non, ça arrive. Non, mais ça arrive, Pierrot. Par contre, t'as oublié Philippe. Non, Philippe, tu nous écoutes, tu nous appelles au 30.
Non, par contre, t'as pas eu la fin de l'article.
C'est quoi la fin de l'article?
La fin de l'article, il dit je me suis réveillé.
Vous savez aussi, mais Philippe Etchebest, il était à 40% à 3 points quand il jouait à la moutette à Portez aussi. Si vous êtes au courant, parce que c'est pas dit là dans le sujet.
Mais
Vincent, il était à 40% à 3 points.
T'as l'air dubitatif sur le palmarès de Philippe Etchebest.
J'ai fait un voyage en France dans ma jeunesse et je me suis inspiré d'un type qui mettait un type qui jouait à pro. Steph Curry a dit oui, je me suis inspiré de ça.
Et donc, il joue à Bègle, il mettait les.
Il allait trop loin sur Philippe Dintran.
Je crois que Philippe est encore mal.
Tout est crédible jusqu'à au moment. C'est toujours pas le problème.
Philippe, appelle-nous.
Philippe Dintran, 32-16. On peut vérifier l'info.
Allez, on passe à autre chose. Est-ce qu'on passe à autre chose?
Ouais.
Sans transition. Sport et business. Sport et NBA.
What time is it, girl? Oh, it's game time, baby! Here it is!
Attention, on aime parler de business, comme dit Denis, de NBA. Wembanyama a franchi un nouveau cap. Il bat tous les records sur les parquets. Puis on parle dans Basket Time tous les mardis. Et même en dehors. Révolution sur la vente des maillots en NBA. La NBA a dévoilé ses statistiques depuis le début de la saison. On est à mi-saison sur les ventes de maillots et le merchandising. Sur ce qu'on appelle le NBA Store, la grande plateforme où tu achètes tous les objets de maillots de NBA. Qui est en tête des ventes des maillots? Stephen Curry, c'est normal.
À 36, toujours lui qui vend le plus de maillots.
C'est incroyable.
Deuxième, il s'appelle Luka Doncic, normal, énorme star. Troisième, Brunson, les Knicks, Pyro.
Ah, j'étais étonné, parce que je pense que c'est la puissance de New York.
Ça, c'est la franchise, c'est New York. C'est, voilà.
Et Philippe Etchebest, c'est cinquième.
Révolution, Pyro. Et Vincent, il vient de dépasser LeBron James. Wembanyama est en quatrième position des plus grandes ventes de maillots.
Ça fait combien de maillots?
Il a pas les chiffres exacts parce que il a dépassé LeBron James. C'est fou.
Ça lui va bien les cheveux rasés. T'as vu?
Ouais, alors c'est un pari, Pierrot, c'est ça?
Gueule.
Oui, parce qu'il est pari.
Si, c'est ses cheveux.
Parce qu'il a été All-Star Game.
Ouais, faut que s'y habitue. Mais ça fait bizarre quand même parce que
il a une belle gueule.
Ouais, mais c'est 25, c'est du gigantisme, c'est incroyable.
Non, mais il a été bizuté parce qu'il a été fou. Parmi les grands, il fait géant.
Oui, ça qui est flippant. C'est parce qu'à côté, les mecs, ils font de 10, de
15,
de 2
mètres.
Quand même.
Mais je crois que c'est Wemby voulait ressembler à Philippe, non? Et Chebest, non? Pas ça?
Oh non, je sais pas quand même.
Alors, aujourd'hui, c'est Vincent qui m'a dit de le dire.
Oh non! Bon, voilà, on a bien rigolé.
C'est sympa.
On parle de sport.
Et tu sais qu'il y a un mec qui imite énormément tous les basketteurs. Enfin, LeBron James, il imite Mike Tyson. Je ne savais pas, c'est un acteur américain, Jamie Foxx.
Ah bon?
Il a un talent d'imitateur.
Il imite la gestuelle.
Non, la gestuelle et
la voix et tout.
Et tout, la voix de LeBron James, de Mike Tyson, c'est impressionnant parce que je connais plus la voix de Mike Tyson que celle de LeBron James.
C'est pas facile en plus, Tyson.
Après De Niro, il fait Obama et Trump. Jamie Foxx.
Philippe Etchebest, tu fais?
Non, c'est pas. Oh, faut m'emmerder maintenant.
Tu fais Trump, toi? Tu imites Trump?
Je t'aime beaucoup. I love you. I love Emmanuel Macron. I love Emmanuel Macron.
Allez, Marseille-Liverpool, c'est notre débat à 16h. Ce match peut-il changer la saison de l'OM? Vincent, règle le problème sur RMC.
Il est 15h57. On y revient au mastic. On y revient de suite, on mastique. Ciao.
RMC jusqu'à 18h. Le Super Moscato Show.